Vous écoutez
RMC. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré. On est avec le journaliste Thierry Moreau, l'ancienne avocate Yaël Mellul et le journaliste Fred Hermel avec vous également au 32-16 pour réagir à l'avis, la proposition du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui se prononce pour la légalisation du cannabis. Vous êtes pour, vous êtes contre, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Il y aura bien sûr RMC s'engage pour vous à partir de 14h30 avec une enquête sur un trafic de cartes de chauffeurs VTC. Et puis il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec un nouveau scandale à la tête d'une fédération sportive.
Ouais, ça concerne cette fois le handball avec le président de la fédération française de handball qui vient d'être condamné à un an de prison avec sursis. Et là, c'est une affaire de mœurs concernant des mineurs.
Et Rémi, on continue à vous faire gagner votre facture énergétique de l'hiver sur RMC.
Oui, nous défendons votre pouvoir d'achat tout au long de la journée. À chaque heure, nous vous remboursons vos factures d'énergie pour passer l'hiver au chaud. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant facture par SMS au 732-16. Facture par SMS au 732-16. Et puis, si vous êtes un pro, RMC ne vous oublie pas. Nous allons rembourser l'un d'entre vous jusqu'à 2000 euros dans Estelle Midi. Vous envoyez tout de suite pro au 732-16. Pro par SMS au 732-16. Deux SMS et 75 centimes d'euros le SMS.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC et on va s'intéresser tout de suite à la proposition du jour. C'est celle du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui souhaiterait une légalisation encadrée de la vente du cannabis. Rémi, concrètement, comment ça se passerait si ça aboutissait et est-ce que cette proposition a des chances de passer?
Alors, dans le détail, le CESE suggère d'abord de ne plus réprimer la consommation de cannabis. Bah oui, il faut commencer par ça. De ne plus sanctionner pénalement son usage, mais aussi de ne plus sanctionner la culture à titre personnel. Et parallèlement, pour le commerce grand public, l'idée serait de mettre en place une filière agricole d'excellence, française donc, avec pour objectif de réduire les risques pour consommer moins, mais consommer mieux, c'est ce que dit le CESE. Pour écouler cette production, eh bien, il y aura des commerces légaux, donc, qui verraient le jour, sous condition. Ils devront obtenir une licence d'État. Les gérants seront dans l'obligation de suivre une formation à la prévention et à la réduction des risques. Ces établissements seront réservés aux adultes, ils ne pourront pas se situer à proximité d'établissements scolaires. Des contrôles d'identité devront également être réalisés à l'entrée de ces magasins. La vente sera bien évidemment interdite aux mineurs. Toute propagande ou publicité en faveur du cannabis, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle bannie. Le CESE ne renonce pas à la répression, propose qu'elle soit au contraire durcie pour la part du trafic visant directement les mineurs. Mmh. Cette légalisation encadrée ne serait par ailleurs pas une incitation à fumer, dit le CESE, mais devra être appuyée par une politique d'éducation, de prévention et de lutte sans faiblir contre tous les trafics. Une partie de l'argent récolté d'ailleurs, parce que évidemment il y aura une taxe sur les ventes de cannabis, bien, servira à cette politique sanitaire. À l'étranger, plusieurs États ont déjà franchi le pas, c'est le cas de plusieurs États américains, de l'Uruguay depuis très longtemps, du Canada plus récemment, qui ont légalisé l'usage récréatif du cannabis. En Europe, Malte a été le premier à le faire et l'Allemagne devrait suivre dès l'année prochaine.
Et comme on fait souvent comme l'Allemagne, il faut voir ce qui va se passer. Faut-il légaliser le cannabis? Je vais commencer avec vous, Yaël Mellul.
Ah, moi, je suis fondamentalement opposée à la légalisation. Il faut arrêter comment on peut s'imaginer une seule seconde que ce marché illégal de cannabis va disparaître en légalisant? Enfin, c'est une utopie absolument, mais incroyable.
Bah, c'est on parle quand même. Ça va disparaître.
Hein. Oui. Enfin, j'espère quand même que ça a pour but d'éradiquer, enfin, dans un.
Mais, non. Enfin, beaucoup de trafic de contenir, voilà. Uniquement de cannabis. Donc,
je précise juste, le CESE dit que ce n'est pas pour éradiquer le cannabis, c'est pour contenir la situation catastrophique.
D'accord.
Actuelle en France où nous sommes l'un des pays les plus répressifs au monde
et le plus consommateur.
Et le plus consommateur en Europe.
Oui, mais c'est peut-être parce qu'il faut s'attaquer à ce marché.
C'est ce qu'on fait.
Qui est absolument concis. Bah non, puisque c'est pas l'objectif, manifestement, en plus de ces recommandations. Mais il faut qu'on parle quand même d'un marché de 3-4 milliards de chiffres d'affaires.
Bah là, t'auras plus de marché parce que ce sera légal.
Mais ça ne. Nulle part, la légalisation ne fait disparaître disparaître. Un
elle fait baisser la consommation voilà. dans tous les pays qui ont légalisé.
Non, je ne crois pas du tout.
Surtout.
Lisez le rapport du CE.
Je ne crois pas du tout qu'on me sorte des études statistiques sur ça. Qu'en légalisant le cannabis, ça fait diminuer le marché parallèle. On parle en France de milliers de points de deal qui engrangent, qui fait travailler des dizaines de milliers de jeunes.
Excusez-moi, Yael, imaginez par exemple, vous avez une personne de 40 ans qui fume du cannabis. Aujourd'hui, elle va se fournir auprès de petits trafiquants, de gros trafiquants d'ailleurs, mais admettons de petits trafiquants. Cette personne de 40 ans, elle serait bien bête, même si c'est un tout petit peu plus cher, de ne pas aller se fournir légalement dans un magasin de shit. Ou en plus, la production, une qualité qui sera certainement meilleure. Ils veulent aussi, avoir un essor des produits bio, du cannabis bio.
Mais c'est ce qui est prévu pour le saison, on en parle. Hein.
Mais je sais, je lis le rapport, j'en parle.
Mais t'as raison de le préciser. Ça va alors.
Mais non, mais t'as la raison.
Attendez, c'est toute une filière qui risque quand même d'être, à un moment, tu vas avoir une filière agricole, qui va arriver. Et évidemment, si les gens se fournissent de manière légale, les trafiquants, ils deviennent quoi?
Ils vont être tapés sur les drogues les plus. C'est tellement d'argent que les gens qui gagnent de l'argent illégalement avec le cannabis, ils vont pas passer du jour au lendemain en disant je vais ouvrir ma petite commerce. Bonjour madame Michu, comment ça va? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et puis attention, les gars, il faut que je fasse ma déclaration et ma déclaration de TVA et d'URSSAF, etc.
C'est pas eux qui seront là.
Faut voir les conséquences que ça va être. Ces gens-là, ils vont encore avoir besoin du même argent, du même niveau de vie, dans l'inégalité. Ils vont pas devenir légaux, ça c'est sûr. Donc, ils vont gagner de l'argent autrement. Ça va créer un autre type de délinquance.
C'est pas parce que tu fumes un joint de temps en temps que tu vas être mal à l'héroïne.
Est-ce qu'on peut répondre? Je parle des vendeurs. Si on légalise et qu'on leur fait la concurrence, ces gens-là vont se tourner vers des drogues beaucoup plus dures ou faire un autre type de délinquance.
Est-ce qu'on peut juste répondre à ces poncifs-là qu'on vient d'enfiler pendant 10 minutes? La prohibition ne fonctionne pas. Regardez ce que ça a donné aux États-Unis avec l'alcool.
On consacre
1 milliard d'euros par an à la lutte contre le cannabis avec un résultat nul. Comme vient de l'expliquer Rémi, ça augmente la consommation et on est le pays le plus répressif. L'interdit suscite la curiosité. Moi, j'ai beaucoup écouté ce que disait le professeur Benyamina.
Il sera avec nous dans un instant.
Il se trouve que je le connais parce que j'ai quelqu'un qui l'a consulté de proche. Ça permet, d'assécher le trafic, de proposer des produits un peu plus pros. Et surtout, son credo qui est très fort, c'est de dire qu'il faut au lieu de s'attaquer à l'émetteur, on protège le récepteur, c'est-à-dire les jeunes. Développer la prévention, éviter que les jeunes y aillent, parce que ça, c'est important. Ça n'empêchera pas, effectivement, comme l'a dit Estelle, le cadre supérieur de fumer un joint de temps en temps. Ça touche toutes les couches de la population, tous les âges et tous les milieux. Il faut absolument, et contrairement à ce que vous disiez, lisez l'étude du CESE, vous verrez que dans tous les pays qui ont fait ça, il y a une baisse de la consommation.
Enfin, tous les pays, notamment chez les jeunes.
Je vois pas l'Allemagne aller se mettre là-dedans si ça marchait pas.
Il y a aussi le Portugal, il y
en a plein d'autres. C'est le vent de l'histoire.
C'était pas que le cannabis, c'était d'autres drogues, notamment l'héroïne et la cocaïne. Et c'est pour ça qu'ils
sont sortis. Exactement.
Mais dans les années 80,
ils sont revenus.
La cocaïne et l'héroïne étaient interdites dans les années 80 du temps de la Movida, c'était totalement dépénalisé l'histoire des drogues à fumer comme ça, le cannabis, etc. Et ils sont vite revenus dessus, c'est tout.
Alors on était justement avec Amine Benyamina, c'est notre invité sur ce débat, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et président de la Fédération française d'addictologie. Merci beaucoup professeur d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'inviter.
Professeur, vous êtes pour ou contre vous la légalisation du cannabis?
Écoutez, moi je suis absolument pour, mais le dire ça ne veut rien dire du tout, mais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le rapport du CESE. Tout est dit. Faire la légalisation du concadré, c'est une légalisation responsable qui permet de protéger des populations vulnérables, qui permet d'offrir, entre guillemets, et ça peut choquer, des produits de bonne qualité parce qu'on en est là. La différence entre un mauvais cannabis et un cannabis qui peut être consommé sans difficulté à partir d'un certain âge, ça permet de casser par un delta le trafic et ça permet aussi de mettre la France dans une dynamique que l'ensemble de la planète est en train de débuter, alors qu'on est en Europe le pays qui consomme le plus avec un volet répressif très important, avec une législation très importante. Le modèle répressif a montré ses limites. Et il y a un pays qui donne l'exemple sur le retournement finalement de la philosophie, c'est les États-Unis d'Amérique. Jamais un pays n'a mis autant d'argent pour lutter contre la drogue que les États-Unis d'Amérique. Quel est le pays actuellement à travers ces États qui est en train de légaliser État par État? Ce sont les États-Unis d'Amérique avec une politique pragmatique. On a d'autres pays qui font des choses différentes et qui adaptent à leur société. L'Espagne a mis en place ce qu'on appelle les Cannabis Social Club. Le Portugal a mis en place une politique de soins et d'encadrement par la justice, mais pas de répression concernant l'ensemble des drogues. La Suisse l'a mise en place. Et la France a perdu le retard vis-à-vis du cannabis dans une politique ce qu'on appelle de RDR, c'est-à-dire au lieu d'aller combattre le trafic, on voit bien que c'est impossible. Vous avez en Amérique latine, la drogue est en train de détruire des États, ce qu'on appelle les narco-États. On met en place une protection, comme le disait un de vos éditorialistes, une protection du récepteur, c'est-à-dire des populations vulnérables, un produit que l'on maîtrise et que l'on contrôle, un regard précis de la société, une vraie RDR, c'est-à-dire on ne va pas raconter simplement, on ne prend pas les gens pour des bisounours, on va leur dire voilà, un bon cannabis c'est ça, ça fume comme ça, c'est pas bon pour l'école, c'est pas bon pour les problèmes de dépression, c'est pas bon pour des jeunes qui ont des pathologies psychiatriques associées. C'est ça qui est une vraie politique responsable et qui porte le nom de légalisation. Et
bon, alors après, ça peut être bizarre, excusez-moi, de faire de la prévention tout en vendant. Enfin, c'est comme si.
Alors qu'on lutte contre avec l'alcool, alors qu'on nous fait des grandes campagnes contre le tabac, et heureusement.
Oui, mais c'est
l'alcool. L'alcool et le cannabis, ce sont des produits licites qui sont encadrés et pas suffisamment.
D'accord.
Parce que la prohibition est le moteur du trafic, est le moteur de la consommation. Lorsqu'on a compris ce qui est contre-intuitif, on met en place une politique pragmatique. On ne veut pas le comprendre concernant le cannabis. Et on fait du jusqu'au-boutisme. C'est une fuite en avant.
Est-ce que vous assistez, vous, professeur Benyamina, à une montée de l'addiction au cannabis chez les jeunes, notamment?
Ce n'est pas une montée, c'est quelque chose qui est exonérant. En gros, vous avez ce qu'on appelle quasiment un booster. Vous avez du cannabis, vous avez de l'alcool, et ensuite on fait l'expérience d'autres produits, des psychostimulants, des médicaments, du protoxyde d'azote. Voilà l'habitus actuel, la typologie actuelle de nos jeunes. Et quand on peut maîtriser ce type de produit, ça nous permet d'attaquer des éléments comme ça, des typologies de consommation différentes. C'est une erreur de rester sur le statu quo.
Vous ne croyez pas que c'est légal? Il y a de plus en plus de gens qui vont consommer. Des gens qui, par exemple, n'osaient pas en acheter parce que justement c'est illégal. Il y a des trafics, il y a encore des gens qui respectent la loi dans ce pays. Mais qui vont se dire, tiens, si c'est légal, je vais peut-être fumer un joint de temps en temps, quoi.
Alors, je vais prendre l'expérience des États qui ont légalisé une dizaine d'années aux États-Unis. Il y a eu un phénomène d'ajustement les premiers mois. Oui, c'est vrai. Dans les États où il était légal, on avait un afflux des États limitrophes. Et ensuite, il y a eu un phénomène de stabilisation et une diminution avec une diminution, ce qui nous intéresse, la prévalence de la consommation chez les jeunes. Et on a eu des points de consommation avec une vraie concurrence de la filière autorisée, notamment sur l'étiquetage, la qualité. Et on a baissé l'attrait du produit. L'attrait du produit, et puis on a coupé finalement l'élan du trafic.
Eh ben merci en tout cas, professeur Benyamina, d'avoir été avec nous. C'était très clair. Le professeur Benyamina qui est donc lui en faveur de la légalisation du cannabis. Ça ne vous a pas convaincu, Yael Mellul?
Non, ça m'a pas convaincu parce que je trouve que ça manque. Il faudrait vraiment un accompagnement, une très grosse campagne d'information sur les conséquences de la crise. Voilà, parce que c'est pas un produit anodin.
Bien sûr.
Surtout chez les jeunes. C'est important de le dire. Alors même si on nous dit aujourd'hui que la vente sera interdite aux mineurs, bon, ils auront. Ça va, quoi.
T'as pas le droit de vendre des cigarettes. Voilà.
Trouveront le moyen.
Mais aujourd'hui, les mineurs ont déjà. C'est ce qu'il dit. L'argent pourra le consacrer à la prévention et à l'accompagnement des mineurs.
Je défends pas l'une ou l'autre position. C'est pas mon rôle. Mais simplement, on a déjà traité de nombreuses fois ce sujet. Les mineurs ont déjà accès d'une manière, simple au cannabis. Je me souviens d'un reportage qu'on avait fait sur RMC. Nous étions allés interroger des lycéens à la sortie de leur établissement scolaire. On leur avait posé la question, est-ce que c'est simple de trouver aujourd'hui du cannabis? Et systématiquement, les réponses, c'était un rire. Ils disaient, mais vous rigolez ou quoi? C'est plus simple de trouver du cannabis que d'aller acheter des cigarettes dans un bureau de tabac.
Oui, bien sûr. Non, alors, c'est très intéressant ce que dit le président de la Société française d'addictologie est très intéressant, mais ce n'est qu'une vision médicale des choses.
Bah c'est déjà pas mal.
Oui, mais il faut voir les conséquences sociales derrière. À partir du moment, c'est 4 à 5 milliards par an de revenus. Donc, que vont devenir les gens qui aujourd'hui vivent? Il y a des pans entiers de la société française.
Ah bah, les entrées.
Il y aura encore un marché pareil pour les cigarettes.
Qui vivent autour du cannabis quand même. Donc il faut voir les conséquences que ça va
présenter. Tu peux peut-être les réinsérer dans la société. Excuse-moi, tu peux peut-être en profiter pour faire
Oui, parce que le dealer, le type qui se fait plein d'argent au black comme ça, du jour au lendemain, il va déclarer sa TVA, URSSAF et etc.
Tu l'as déjà dit. C'est pas le problème, Fred. C'est juste que le dealer qui se fait comme tu dis 10 000 euros par mois, voilà, s'il a plus ces revenus là. Peut-être que c'est le moment.
Il va passer à la cocaïne et à l'héroïne.
Peut-être que c'est le moment de lui expliquer qu'il y a une autre vie possible. Voilà, mais je suis peut-être naïve. Mais
Je pense que tu es naïve.
Je suis pas la seule à être naïve, tu vois. Le CESE demande ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de la légalisation. Même Emmanuel Macron. Alors là, il a changé d'avis, mais au départ, il était pour.
C'est étonnant aussi, ça.
Il a changé d'avis, mais au départ, il était pour.
Et le passage des trafics de drogue douce à des drogues dures, c'est faux aussi. Ça s'est aussi démontré.
Ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, je sais pas ce qu'ils vont faire du jour au lendemain.
Mais en fait, tu vas pas avoir une. Attends, si tu me dis qu'il y a sur 100 trafiquants de cannabis, tu vas en garder 10 parce qu'il y aura toujours un trafic parallèle. Il n'y a pas les 90 autres qui vont aller se mettre dans le trafic de l'héroïne parce que c'est un marché limité.
Exactement.
Et comme tu vas pas avoir, une augmentation exponentielle des consommateurs d'héroïne, il y a bien un moment, il faudra qu'ils trouvent de l'argent.
Tu veux dire, il y a un moment, il faudra qu'ils trouvent de l'argent.
Le jour où la prohibition de l'alcool s'est arrêtée, crois-moi, les trafiquants, ils ont su trouver et faire de l'argent sans aucun problème.
C'est pas le même monde.
C'est exactement la même chose. La prohibition est contre
les États-Unis.
Aujourd'hui, il y a des quartiers entier. On le voit dans les faits divers, je sais pas, au moins une fois par semaine, les problèmes qu'il y a dans les points de deal.
Il y en aura plus, de deal.
Mais allez, bon courage pour aller les démanteler.
Peut-être au moins essayer quelque chose. C'est pas mal d'essayer quelque chose. Ça n'a jamais été fait et c'est un fiasco total. Peut-être que tu l'essayes, tu vois, dans 6 mois. Et si c'est un fiasco, tu changes. Mais si on n'essaye rien,
Et les moyens, les policiers qu'on met là-dessus, on pourra les mettre sur autre chose. Sur des vrais.
Parce que les dealers du jour au lendemain vont devenir de gentils citoyens.
J'ai pas dit ça. Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Plutôt que de dire. Ça va être ci, ça va être ça, qu'est-ce que t'en sais? On n'a pas essayé, il y a qu'à
partir de le rapport pays, du CESE, je vous promets, il est passionnant.
Et encore une fois, le fait que l'Allemagne s'y mette, je me dis.
Oui, ils ont fait plein de trucs aussi, l'Allemagne, ils ont fait plein de conneries, ils sont venus derrière, il y a toujours le modèle allemand, merci. Quoi.
Mais c'est pas le modèle allemand, c'est
aussi le Portugal, l'Uruguay.
Ils ont fermé leur centrale nucléaire, génial, super.
Le Portugal, l'Uruguay, les États-Unis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais non, il y en a beaucoup plus que ça.
L'Allemagne, c'est un petit
modèle aussi. C'est vrai que les États-Unis, c'est un modèle,
Sur certaines choses, ça peut être un modèle, je ne vois pas modèle, le rapport. Romain est avec nous, il nous appelle du Chesnay dans les Yvelines. Bonjour Romain.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Romain, sur ce débat qui est assez enflammé sur le plateau. Romain, vous êtes consommateur ?
Non, ancien consommateur.
D'accord. Et vous avez arrêté pour quelle raison ?
J'ai arrêté pour ma famille, tout simplement. J'ai ma femme, j'allais avoir mes deux enfants et j'ai décidé d'arrêter pour eux, tout simplement.
Romain, est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'ancien consommateur, justement pour la légalisation ?
Oui, bien sûr, je suis pour la légalisation. Je pense que c'est une solution qui permettrait d'éviter quand même pas mal de problèmes qu'on a en ce moment. Et moi,
c'est-à-dire ?
Moi, en tant qu'ancien consommateur, quand j'ai été consommateur, aller dans des endroits qui sont quand même un peu mal famés, c'était quand même un peu compliqué, pour être totalement honnête. Et je suis d'accord avec ce qui avait été dit en disant que les consommateurs, quand il y a un produit qui est comme le cannabis, d'une certaine chose, et ensuite on passe forcément de l'héroïne ou autre, ça c'est totalement faux.
Exactement.
Ça c'est moi en tant que quand j'étais consommateur. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me faisait carrément peur. Donc, jamais
je parlais pas des consommateurs, je parlais des dealers.
Oui, mais le problème, en fait, c'est que moi, je trouve que, on pense trop aux dealers. Il faut penser plutôt aux consommateurs. Et je pense que ça, ce serait quand même une meilleure chose de le faire parce que, on est toujours là en train de penser à ceux qui gagnent énormément d'argent et qui font ce trafic. Moi, je pense pas à eux. Moi, je pense aux consommateurs. Et c'est ça qui serait la meilleure des solutions pour eux. Et ensuite, ce que je pense aussi, c'est que faire de la prévention sur des produits illégaux, c'est compliqué. Alors que si on le légalise, on pourra quand même mieux travailler sur la prévention.
Et on aura plus d'argent pour le faire. Voilà. Et puis, on rappelle exactement. Que vous vivez mieux hein, depuis que vous avez arrêté le cannabis, Romain.
Je vivais très bien. Hein. Je vivais très bien. Hein. J'avais un boulot. Aujourd'hui, j'ai ma propre société. Mais avant, je
c'est mieux maintenant, quand même.
Comment ?
C'est mieux maintenant, parce que vous avez arrêté.
Bah, c'est mieux parce que j'ai ma famille. C'est ça qui est le plus important pour moi. Mais exactement. Après, voilà. Il y a du travail à faire. Et moi, je pense que la légalisation peut faire partie des solutions. Au pire des cas, si ça marche pas, on arrête.
Et bien, on change. Exactement. Merci Romain pour ce témoignage, en tout cas. Et vous avez d'autres témoignages sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, témoignage intéressant, notamment de Tristan. Bon, c'est un témoignage parmi d'autres, hein, mais Tristan, il nous écrit du Québec. Il est au Canada, où désormais, l'usage du cannabis récréatif est légal. Il nous dit, moi, je suis donc au Québec, c'est légal, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, tout se passe très bien. La police ne perd plus son temps pour courir après les dealers. L'argent généré sert à la population, pour les écoles, pour les routes, notamment. Et puis il y a Laurent qui nous dit, je fume depuis 15 ans, la légalisation permettra de contrôler ma consommation. Je n'aurai pas besoin d'en avoir chez moi, je fumerai moins. En tout cas, mon avis, aujourd'hui, je prends des risques en allant chercher ma drogue. Et je voudrais réduire drastiquement. Et si je pouvais le faire auprès d'un commerçant, être sensibilisé à la question auprès de professionnels, moi, ça m'aiderait.
On est avec Damien également, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Damien.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes consommateur de cannabis, Damien ?
Alors oui, moi je suis consommateur récréatif le week-end et pendant les fêtes. Je vous appelais pour parler surtout de cette hypocrisie qu'on a en France avec la légalisation du cannabis. Je vais partir de l'exemple d'une personne qui travaille, qui a un emploi, des enfants, qui rentre chez lui le soir et qui se sert un verre de whisky. Mmh. Qui sert un verre de whisky ou qui même boit une bouteille. Ça, c'est de l'alcoolisme, c'est encore différent. Mais une personne qui boit un verre de whisky. Ouais. Cette personne-là, on lui dit rien, c'est dans les mœurs, sous son verre de vin d'ailleurs. C'est dans les mœurs. Alors qu'une personne qui va rentrer chez lui le soir, qui va se fumer un joint, qui, personnellement, je pense, n'est pas plus grave sur la santé à petite dose que de l'alcool à grande dose non plus, cette personne-là, on va directement la matraquer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pense qui fument, jeunes comme moins jeunes, qui fument.
On est les plus gros consommateurs en Europe.
Comment ?
On est les plus gros consommateurs de cannabis en Europe.
Ça montre quand même aujourd'hui qu'il y a une vraie hypocrisie et vraiment aujourd'hui les personnes qui sont totalement contre et qui n'essayent même pas de comprendre en quoi les personnes, beaucoup de personnes utilisent ça à usage récréatif mais aussi à usage thérapeutique ou encore
ça a rien à voir.
Détendre, tout simplement les personnes qui le soir préfèrent se fumer un joint et leur permettre de se détendre, moi je comprends totalement ces personnes-là.
On parle de la légalisation. Vous seriez pour, donc.
Mais bien évidemment, cette légalisation permettrait justement à ces personnes, moi, ça m'arrive des fois d'aller acheter de ma consommation directement dans les quartiers. On voit de tout, c'est très hétéroclite. On voit des personnes d'une cinquantaine d'années, on voit des personnes qui ont 15 ans, malheureusement. On voit des femmes, des hommes habillés en costume, des hommes habillés, des ouvriers. On voit tout le monde aujourd'hui. C'est une sacrée hypocrisie aujourd'hui de laisser tout ça illégal, alors que tout le monde... Pas tout le monde, mais une grande partie des personnes ont déjà fumé ou fument régulièrement.
Ben merci beaucoup Damien pour ce témoignage. En tout cas, Damien qui est aussi en faveur de la légalisation. On voit après quand même qu'il y a eu le CBD qui est arrivé il y a quelques mois et tout le monde se demandait, etc. Et puis ça marche plutôt bien, quoi. Mm-hmm. Donc on peut se dire que pour le cannabis, bien sûr.
Oui, mais le CBD, ça fait pas planer.
Non, mais évidemment.
C'est plus une drogue, quoi.
Oui, mais au départ, tout le monde essayait plein de trucs avec le CBD. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, en fait, tu vas avoir au départ, je pense, un effet surprise. Tu vas avoir envie d'essayer. Et puis,
c'est ce que disent les retours d'expérience dans les pays qui ont autorisé le cannabis. Au départ, il y a une sorte d'appel d'air. C'est-à-dire que certains qui ne fument pas, se disent, tiens, je vais peut-être essayer. Ça s'est passé au Canada. Au début, c'est récent encore le Canada.
Bien sûr.
Il y a eu une augmentation du nombre d'usagers de 6%. Mais ensuite, l'expérience du Colorado, qui est plus ancienne, il y a eu une augmentation du nombre d'usagers, mais ensuite, le nombre d'usagers a diminué et continue à diminuer à l'heure actuelle.
Et notamment chez les jeunes.
C'est bon. Alors, on va voir ce qu'a donné notre consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il légaliser le cannabis, Rémi ?
On vient de gagner juste un point là, à l'instant, en plus, pour le oui. C'est un oui, il faut légaliser le cannabis récréatif en France pour 60% de ceux qui se sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ah oui, 60% quand même. Ouais.
C'est le vent
ça risque de passer. Et ça, ouais, ça peut passer.
C'est le vent
ça marquerait aussi le quinquennat Macron.
Il supprime la réforme des retraites.
Lance le débat. Je peux te dire que voilà.
C'est le vent de l'histoire. Soyez un peu progressiste.
Un peu sous le tapis.
Bah oui, mais ça dépend. Le Macron de 2016, le Macron de 2022.
On ne sait pas, Yael.
Non, mais c'est la semaine dernière.
C'est pas Macron qui compte, c'est la société qui doit bouger.
C'est beau ce que vous dites, c'est incroyable. Dans un instant, on vous aide sur RMC. RMC s'engage pour vous avec une enquête d'Amélie Rosic sur un trafic de cartes de chauffeurs VTC. Vous allez voir, c'est absolument invraisemblable. On vous fait gagner de l'argent également. Votre facture d'énergie pour l'hiver, ce sera dans quelques minutes. Et puis les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec un nouveau scandale à la tête d'une ligue sportive. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide tous les jours sur RMC. RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic.
RMC, Estelle Midi,
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, aujourd'hui, ce sont des chauffeurs VTC qui vous ont alerté sur un trafic organisé de cartes professionnelles.
Absolument, tout se passe sur la messagerie sécurisée Telegram. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme WhatsApp, mais un peu plus sécurisé et crypté. Et la description de ce groupe de discussion est franchement limpide. Obtenez votre carte VTC sans formation, validée en préfecture. Créé il y a 4 mois, ce groupe, il compte plus de 7600 membres. C'est énorme. La mécanique est très bien huilée. Vous voyez des flyers colorés qui décrivent les offres. Vous les voyez si vous nous regardez sur RMC Story. 1 500 € pour une carte de chauffeur VTC. 2 000 € pour le package all-inclusive avec création de compte Uber. Brahim Ben Ali est secrétaire général de l'intersyndicale des VTC. Écoutez.
J'ai été dans un premier temps alerté par des chauffeurs qui ont utilisé ce réseau. Donc, ils ont testé. Et finalement, ils sont revenus vers moi en me disant on peut obtenir un compte Uber facilement chez Bolt, chez Freenow, chez Hitch, de cette manière, par ce biais-là.
Voilà, il suffit d'un permis de conduire. Ah, d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Le réseau s'occupe de tout le reste en 3 semaines, contre 3 mois minimum par la voie légale, et pas besoin non plus d'avoir un casier judiciaire vierge.
On parle d'un très gros réseau qui opère comme une vraie société. C'est bien organisé, c'est qu'il y a des témoignages de chauffeurs qui vous disent « j'ai eu le sésame, c'est incroyable ». Et c'est effrayant parce que finalement, ceux qui ne pouvaient pas obtenir ce fameux sésame parce qu'ils avaient des antécédents avec la justice, l'obtiennent par ce biais-là.
Brahim Ben Ali, justement, il nous a contacté pour dénoncer ses pratiques. Donc lui, le secrétaire général de l'intersyndicale des VTC, parce que ce genre de pratique, évidemment, ça a terni l'image de la profession, en fait.
Mais ça veut dire qu'en fait, on peut prendre un Uber et en fait, c'est un repris de justice.
Oh mon Dieu.
Exactement. Au volant et on le sait pas.
Exactement. En fait.
C'est évidemment très très embêtant. Alors, vous avez enquêté évidemment Amélie, comme chaque jour, qui se cache derrière ce réseau.
Alors évidemment, pour essayer de le découvrir, qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis fait passer pour un aspirant VTC avec un casier judiciaire. Donc je suis allée sur le groupe Telegram en question, très facile, en un clic j'ai contacté le vendeur.
Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, totalement, il reste de la place pour cette semaine. Donc là, ce qui serait bien dans un premier temps déjà, c'est que tu m'envoies tes documents afin que je puisse vérifier ton éligibilité pour voir si on peut éventuellement faire un dossier pour toi.
Vous l'entendez, le ton est franchement amical. Moi, je lui ai écrit un message écrit, lui m'a envoyé un vocal. Le reste se passe par écrit. Et lorsque je lui dis que j'ai un casier judiciaire, le vendeur me rassure et il me dit « on a plein de clients ». Sous casier.
Mais formidable.
C'est formidable.
Non,
mais pas c'est de soucis.
Vous serez entre vous.
Voilà.
Et dans Thomas un... Freine.
Voilà. Ça, c'est les échanges qu'on a eus ensemble. Et sur le groupe de discussion, donc c'est public, en tout cas ouvert aux 7600 membres. Là, il y a un autre échange avec un acheteur. Et dans cet échange-là, le trafiquant, il va plus loin parce qu'il dit le casier, c'est pas un souci pour notre contact qui bosse en CMA. Alors, CMA, ça veut dire Chambre des métiers de l'artisanat. Ce sont eux qui valident les examens que doivent passer les chauffeurs pour devenir VTC. Donc vous avez bien compris que ce que fait le vendeur là, c'est qu'il laisse entendre qu'il est en fait des complices au sein de l'administration. Et d'ailleurs, il nous a assuré qu'il vend de vraies cartes délivrées par la préfecture.
Non mais Amélie, j'imagine que vous avez alerté les autorités, parce que c'est un trafic, c'est illégal, hein, évidemment. Que vous ont-elles répondu, justement?
Alors, la première chose, c'est qu'on a contacté la Chambre des métiers de l'artisanat, donc vous l'avez compris, ceux qui valident les examens, d'Île-de-France. Alors là, on nous a dit impossible que le faussaire ait des complices en interne. Il y a trop d'échelons de contrôle. Il y a 10 personnes au total pour sortir les documents. Donc, c'est impossible. Très bien. Côté ministère de l'Intérieur, on nous a renvoyé vers la police nationale qu'on a eu au téléphone et qui s'intéresse au sujet, mais qui n'a pas encore d'éléments à nous communiquer. Donc on verra, on viendra, je reviendrai, je pense qu'on en reparlera.
Ah bah oui.
On a également lancé les plateformes BTC, parce que vous l'avez vu, il y avait deux formules. Alors il y a la formule à 1500 euros, je vais avec juste la carte professionnelle, et la formule où on ajoute 500 euros, et là on a la création d'un compte sur Uber, sur les plateformes BTC. C'est le pack, all inclusive. Donc les plateformes, on les a lancées, et eux ils se défendent. Hein. On a eu Uber, Bolt et FreeNow, qui nous assurent qu'ils contrôlent, eux ils contrôlent les cartes professionnelles, qui sont d'ailleurs des cartes biométriques. Et les permis de conduire, ça ils le font au moment de l'inscription, puis une fois par an, c'est obligatoire. En revanche, ils ne contrôlent pas en amont, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas les extraits de casier judiciaire ou les attestations de formation.
Bah ouais.
Exactement.
C'est des vraies cartes qui sont délivrées.
Et donc ça, c'est le boulot des préfectures. Johanna Chabas a donc contacté les 24 préfectures dans lesquelles des cartes VTC auraient été achetées de cette manière. Et pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse.
Sauf voilà. Que ce matin. Il y a eu des nouvelles quand même.
Eh oui, il y a du nouveau. Alors déjà, première réponse, puisqu'on en est aux institutions, le ministère des Transports, il y a 5 minutes vraiment, donc je vous le dis, parce que je l'ai imprimé, on a une très longue réponse.
Pour envoyer un vocal ?
Une page entière, non, pas de vocal du ministère des Transports, mais voilà, une très longue réponse, dans laquelle ce qu'on nous apprend surtout, c'est qu'il peut y avoir des investigations menées pour ce genre de réseau, et que ce sont des actions de longue haleine, mais qui ont d'ores et déjà permis de démanteler des réseaux frauduleux de ce type. Donc ça veut dire que ça existe bien, que ça a déjà été fait. Et il nous donne un exemple, le ministère des Transports, en 2020, les policiers ont démantelé un réseau de trafiquants de fausses attestations, cette fois-ci pour VTC, et c'était en Seine-Saint-Denis. Voilà pour la réponse côté gouvernement.
D'accord.
Mais ce qui est plus rigolo, si je puis dire, même si c'est clairement illégal, c'est que la personne que vous avez entendue et que j'ai piégée, qui doit être donc un des responsables du réseau de trafiquants, eh bien il l'a vu visiblement notre enquête, puisqu'à 10h57 ce matin, il a supprimé ce groupe qui existait quand même depuis septembre, hein, 7600 membres,
d'accord.
En disant il n'y a plus de carte disponible, avec trois croix, puis il a supprimé le compte, et puis il m'a envoyé un petit message personnel, alors je vous le dis comme ça, c'est un petit émoji, un petit clown qui rigole, voilà. Et donc une petite conversation s'est engagée, où il nous a expliqué qu'il habitait à Los Angeles, bon on se doute que ça doit être, ça doit être faux, mais où quand même le trafiquant nous félicite pour notre enquête. Voilà, donc je vous le dis parce que ça vaut
comme,
son pesant.
La politesse, ça se perd de nos jours.
Comme quoi, on peut être délinquant et beau joueur.
Et élégant,
voilà. Et en cadeau, il t'a offert une fausse carte si jamais tu voulais te recycler.
Enfin, il risque quand même de la prison. Hein.
Voilà, on va, exactement. Alors, en cadeau, une fausse carte. Non, en revanche, évidemment, je lui ai demandé davantage de précisions, notamment sur ce qu'il laisse entendre, à savoir qu'il a des complices au sein des préfectures. Et donc, il m'a dit fais un dossier, tu comprendras mieux. Voilà. Donc évidemment, je vais pas faire un dossier vraie fausse carte VTC, hein, mais donc voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Désormais, ce n'est plus entre nos mains.
Oui, il ouvrira un autre compte
probablement
sur une autre plateforme. Merci beaucoup Amélie Rosic, tous les jours RMC s'engage pour vous, on suit ce dossier bien sûr, et puis si vous voulez l'aide d'Amélie, n'hésitez pas, RMC pour vous @rmc.fr. Dans un instant, on vous fait gagner votre facture d'énergie pour l'hiver, et puis il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais vous le savez, toute la journée sur RMC, on vous fait gagner votre facture d'énergie, Rémi.
Exactement, pour défendre votre pouvoir d'achat tout au long de la journée, à chaque heure, nous vous remboursons vos factures d'énergie pour passer l'hiver au chaud, bois, gaz, fuel, électricité, quel que soit votre mode de chauffage, ça fonctionne.
Alors, on a offert la facture d'énergie à deux particuliers et maintenant, c'est au tour des professionnels. Et le professionnel qui est avec nous, c'est Christophe, qui est hôtelier restaurateur depuis 40 ans en Isère. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bah Christophe, c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'on vous rembourse jusqu'à 2000 euros votre facture d'énergie de l'hiver, Christophe.
Ouais, c'est génial, c'est vraiment super ça. Ça tombe bien.
Bah oui, surtout dans votre secteur d'activité. Oui. Vous chauffez comment vous, Christophe?
On chauffe au fioul, malheureusement.
Ah oui, c'est un peu cher. Ouais. Et ben, on vous remboursera donc 2000 euros sur votre facture d'énergie de cet hiver. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe. Bah, écoutez, on est content de vous rendre heureux et puis bah, continuez votre activité. Voilà, hôtelier restaurateur depuis 40 ans. Quel beau métier. Merci Christophe d'avoir été avec nous et ça continue sur RMC.
Exactement, tout au long de la journée. Si vous êtes particulier, vous envoyez facture par SMS au 732-16. Facture par SMS au 732-16. Et si vous êtes un pro, eh bien c'est pro par SMS au 732-16. 2 SMS et 75 centimes par SMS.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commente les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Yael Mellul et Fred Hermel. Et on va commencer avec les poursuites du jour.
Les poursuites du jour, c'est un sale temps pour le sport français, c'est peu de le dire. On sait que de hier, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a été placé en garde à vue pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et désormais, on apprend que le président de la Ligue nationale de handball, vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis. Il était poursuivi pour corruption et enregistrement d'images pédopornographiques. Bruno Martini a été déféré hier au tribunal de Paris et il avait choisi une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire qu'il reconnaît les faits et a aménagé sa peine avec le juge.
Alors c'est corruption de mineur et en fait il a conversé sur un réseau social avec un mineur de 13 ans, il a essayé de le faire venir chez lui et le mineur au dernier moment, alors qu'il lui avait payé le taxi, il a pris peur, il en a parlé à ses parents et ils sont allés prévenir la police.
Et mais puis il y avait des tensions d'images pédopornographiques.
Exactement. C'est incroyable ce qui se passe actuellement, Yael Mellul.
C'est glaçant en fait. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans cette affaire précisément, c'est que j'ai cru comprendre que ce monsieur avait 52 ans, que ça faisait quand même pas mal de décennies qu'il est dans le milieu sportif.
Il était gardien de l'équipe de France de handball, donc voilà.
Donc toute sa vie en réalité.
Il a participé aux belles heures.
J'ai bien peur que se cache une certaine sérialité derrière ce.
Ça va y avoir une enquête, toute
voilà.
façon.
Donc il va y avoir une enquête et c'est terrible pour le gamin et puis en même temps il a plaidé coupable donc il a voilà on a des aveux avec de fait c'est souvent le cas une condamnation légère un an avec sursis
c'est très léger quand même
c'est extrêmement léger mais ça vient faire le contrepoids de l'aveu de culpabilité
on peut espérer que ce soit démis de ses fonctions surtout
il faudrait aussi que la ministre des Sports ait la même sévérité qu'elle a pu avoir dernièrement avec le tweet qu'il y a eu contre Zizou, parce que là on est quand même dans quelque chose de.
Alors elle vient de communiquer effectivement et elle dit voilà que là pour le coup les instances du handball vont se réunir et elle a une pensée également pour le jeune garçon de 13 ans et elle incite effectivement les mineurs à parler à leurs parents et pour éviter
bien sûr
ce genre de choses mais effectivement 1 an avec sursis ça paraît
ça
paraît pas léger beaucoup. Et surtout c'est pas rassurant pour les parents parce que quand t'es parent que t'envoies tes enfants faire du judo du basket du handball du foot du quoi que ce soit de savoir qu'il peut pas être aux mains de prédateurs quoi. Donc c'est moi qui adore le sport, c'est glaçant quoi, c'est glaçant et Martini c'est pas n'importe qui hein.
Enfin,
c'est
bien sûr
et c'est ça le truc
sport,
aussi c'est qu'on parle
c'est
alors les plus anciens
handball, hein.
C'est de l'équipe des Barjots qui est champion du monde etc. Enfin on parle d'une figure du sport français, c'est glaçant.
On va passer au refus du jour.
Ouais, ça s'est passé hier sur BFM TV qui diffusait un débat politique sur la réforme des retraites. Comme invité notamment Mathilde Panot de la France Insoumise, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ou encore Jordan Bardella du RN. Et il y a eu un petit incident avant même le début de l'émission, c'est-à-dire qu'en coulisses, lorsque les invités politiques sont arrivés, Mathilde Panot a refusé de serrer la main à Jordan Bardella. Les présentateurs de l'émission, Maxime Suitec, est revenu sur l'incident en début d'émission. On lui a demandé à Mathilde Panot pour quelle était la raison de cette attitude et elle leur a répondu que pour elle le RN ne serait jamais un parti comme les autres et qu'elle donc refusait de serrer la main à l'un de ses élus.
Oui, elle a refusé également de serrer la main d'Olivier Véran. Ouais. C'est ridicule ou c'est logique pour vous, Thierry Moreau ?
Je trouve ça assez ridicule. On est dans un système démocratique qui fait que on ne demande pas aux hommes politiques qui s'écharpent à l'Assemblée, qui débattent, qui ne sont pas d'accord, qui peuvent être violemment pas d'accord, un peu de civilité. Je trouve que justement, ça met de l'huile dans les rouages démocratiques. C'est justement parce que on est civilisé qu'on peut se parler, qu'on peut discuter, absolument, et donc qu'on peut débattre et s'affronter. Et je pense que mettre une limite entre des gens infréquentables et des gens fréquentables ne me paraît pas être une bonne façon d'être un élu de la République.
Oui, d'ailleurs, Jordan Bardella lui a dit derrière que si elle voulait rassembler la France, c'était pas forcément la bonne.
Ce n'est pas complètement faux.
Ben, ah oui.
Non, mais surtout, il y a des millions et des millions de Français qui ont voté, qui votent et qui voteront pour le Rassemblement National, que ce soit législatif, 89 députés, c'est pas rien. Deux fois en cinq ans, deuxième tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen. C'est pas Jordan Bardella qu'elle refuse de serrer la main. C'est à des millions et des millions de Français.
Yael Mellul,
c'est beau ce qu'il vient de dire.
D'accord, bon,
on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Et moi, je trouve, il n'y a rien de plus. Je pense qu'une insulte est moins fort qu'un refus de serrer la main.
Ah mais moi
horrible. Tu peux dire connard à quelqu'un, oui, mais refuser de lui serrer la main, c'est d'une violence.
C'est un manque de respect. C'est discourtois, c'est inélégant, voilà, aussi. Enfin, ça remplit toutes les cases d'un comportement qui va pas, en fait. Enfin, je veux dire, et qui va. Ce sont des élus, les deux. Je veux dire, à un moment donné, il faut le respecter en tant qu'élu.
C'est pas des factions.
Voilà, c'est tout. Voilà. Et ce qu'il représente. Et c'est en ça où je dis ce que tu as dit, c'est beau. Voilà, parce qu'il représente des gens. Il y a des gens derrière, quoi. Voilà.
On va passer, ça c'est extraordinaire, à la nouveauté du jour, Rémi.
La nouveauté du jour, un signe de la main. Depuis début janvier, la région Nouvelle-Aquitaine tente une nouvelle formule dans les trois de ces gares SNCF qui se situent en Corrèze. Ce sont trois petites gares de campagne où, sur le quai, il faut lever le bras si l'on veut que le train s'arrête et vous prenne. De la même manière, lorsque vous êtes dans le train, si vous voulez descendre dans l'une de ces gares, bien, il faut aller avertir le conducteur. Un moyen d'éviter la fermeture de ces petites stations ferroviaires et aussi d'éviter de perdre du temps.
Mais c'est n'importe quoi.
Bah non, c'est très bien. Bah,
les bus,
ça
marche très bien. On vient au 19e siècle.
Mais si ça permet de...
Qu'est-ce que c'est, ça, là?
Je trouve ça, c'est du pragmatisme. Mais bien sûr, c'est pas le TGV non plus, hein.
Non.
C'est pas le Paris-Lyon que t'essaies d'arrêter. Un conseil.
C'est des petites lignes.
C'est des trains de wagons et tout. Ça roule pas très vite. Alors, un conseil. C'est mieux de lever la main, pas jeter son chat, hein. Je dis, c'est le truc pour faire. Une mauvaise blague. Mais non, mais sérieux, on le fait en bus, des fois. Des fois, on fait un appel au bus. Pourquoi on ferait pas un appel au
bus? Quand t'es dans l'arrêt, le type s'arrête. Bah là,
Il faut montrer la main.
Ces petites lignes, ça va.
Quand vous hélez votre taxi, vous levez la main aussi, c'est pareil. Bah, c'est le même système, c'est pas idiot. C'est pragmatique.
Enfin, je vais pas lever la main pour arrêter un train.
On parle d'un train, là, on parle pas d'un taxi.
Justement, un bus, ça ne s'arrête, un train, ça ne s'arrête pas comme un bus. Donc, si systématiquement.
Merci.
C'est très pragmatique. Un train, s'il marque un arrêt à une station ferroviaire, donc si on laisse la gare ouverte, le train s'arrête, il va mettre de nombreuses minutes avant de redémarrer et donc c'est autant de perte de temps pour les voyageurs. C'est pour ça que ces petites lignes ne sont plus utilisées. Vous devez mettre une heure pour faire 25 km entre deux communes. Voilà.
Mais avant, tu t'arrêtais tout le temps pour personne. Alors que là,
c'est ça,
tu t'arrêtes qu'il y a un caisse.
C'est ce que je dis, ça évite de perdre du temps et de laisser ces petites stations ouvertes.
Et excusez-moi, quand vous êtes dans le train, comment on fait pour s'arrêter? C'est-à-dire que vous devez
aller. Vous allez voir le chauffeur pour lui dire est-ce que je vais m'arrêter à la prochaine gare.
Exactement.
C'est très simple. C'est pas des trains qui font 3 km de long.
C'est génial.
Et en plus, tout le monde se connaît. En général, c'est le même chauffeur qu'on voit souvent.
Ah bah, Roger, comment tu vas?
Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le train,
visiblement.
Le train de.
Oh merde.
Mais c'est Balagne. Le train de Balagne, en Corse.
Que nous connaissons bien tous les deux.
Il opère exactement comme ça. Et ça marche très bien.
Oui, mais c'est la Corse.
Eh ben.
Et alors?
La
Corse peut être un exemple pour beaucoup de régions, y compris pour la Bretagne, madame Estelle Denis.
Mademoiselle Estelle Denis. N'oubliez jamais.
Bah ouais, moi je préférerais que ça ait une électrification, que ça ait de plus de lignes et que ça aille plus vite, etc. Vous voyez, plutôt que
ça. Mais ça va plus vite parce que justement on s'arrête pas à toutes les gares, vous voyez, voilà. Comme ça va dans le bon sens.
Ouais, enfin, bon, je suis pas sûr. Enfin, bon,
si bravo fait, la région Aquitaine.
J'ai envie de vous dire, ça vous fait plaisir. Bon, bah, écoutez, continuez à appeler le train en levant la main, après, c'est formidable. Bon, l'enquête du jour.
L'enquête du jour, je ne l'ai plus.
Tu veux que je te la lise?
Attends, si je l'ai, selon des informations de France Télévisions, plusieurs membres du syndicat de police Alliance sont visés par des procédures judiciaires pour violation du secret professionnel à Paris et à Marseille. À l'origine, suivez bien, un policier parisien qui aurait, à la demande du syndicat Alliance, informé l'un de ses collègues accusé de violence conjugale du contenu de la procédure qui le visait. Convoqué par la police des polices pour s'expliquer, l'informateur présumé s'est depuis donné la mort.
Et je sais que vous êtes scandalisé par cette affaire, Yael Melun.
Je viens d'apprendre parce que il y a un suicide, donc au final c'est absolument gravissime. Voilà, c'est gravissime. Je sais pas quoi dire.
Ça révèle en fait deux dysfonctionnements. Un premier dysfonctionnement, c'est où un collègue pense rendre service à un autre collègue en toute illégalité en informant de ce qu'il y a dans une plainte.
Et lors d'une première audition, il aurait affirmé, je dis bien sous le conditionnel, l'enquête est en cours, mais il aurait affirmé que, en fait, c'est le syndicat de police Alliance qui lui aurait demandé, il y a un collègue qui est visé par une procédure pour violence conjugale, est-ce que tu peux regarder les PV, nous dire ou lui dire, l'informer de ce qu'il y a dedans, comme ça il pourra mieux se défendre.
Ça c'est le premier dysfonctionnement. Et le deuxième dysfonctionnement, évidemment le plus dramatique, c'est que la personne en question qui aurait dû être jugée, condamnée à une peine, se donne la mort. On est dans l'absolue irrationalité. Enfin, c'est un scandale d'un bout à l'autre cette histoire.
Et on va terminer avec la déclaration du jour.
La déclaration du jour, dans une interview, le pape François réaffirme la doctrine de l'Église sur l'homosexualité. Il estime que les lois pénalisant l'homosexualité à travers le monde sont injustes, mais déclare que cette orientation sexuelle est un péché. L'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché.
C'est terrible.
C'est effrayant parce que...
Il a dû se dire, tiens, je vais essayer d'être progressiste, mais ça, c'est faux.
Mais ça, il n'y a que les bobos pour croire que François est progressiste. Ce pape est un désastre pour l'Église catholique, et je suis catholique pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches. C'est un désastre, et les gens s'imaginent. De toute façon, c'est le pape des gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'aiment pas l'Église. Donc déjà, et les gens se découvrent ce qu'est ce pape. Non, ce type a voulu entraver la légalisation de l'avortement dans son pays d'origine qui s'appelle l'Argentine. Ce pape est un faux progressiste. C'est du n'importe quoi.
Ah bah là, c'est sûr que c'est pas très progressiste.
Voilà. Simplement, le péché. Je veux dire, moi, j'ai une conception du péché. Le péché, c'est de ne pas aimer quand on est chrétien.
D'accord.
L'adultère est un péché. Les couples certaines pratiques sexuelles sont des péchés. Pourtant, il y a bien des couples mariés qui sont dans le péché. Pourquoi on imposerait à des homosexuels quelque chose de plus répressif une autre population? Je trouve ça absolument hallucinant.
C'est un faux progressiste. Il y a plein de gens qui sont laissés avoir par lui. Voilà.
Allez, lui, il est progressiste. En tout cas, c'est Vincent Moscato. On va le retrouver, le super Moscato Show.
Il est débridé, même.
Ma sœur, mes bien chers frères, ma sœur Estelle, ce serait un péché de ne pas écouter le super Moscato Show.
Mais je suis d'accord.
Je vous le dis, frère Fred Hermel, frère Moreau, ce serait un péché. Et on va parler, bien entendu. Oui, amen. Et on va parler de Deschamps. Est-ce qu'il bride un peu les petits clubs? Est-ce qu'il est censure au niveau de l'équipe de France? Tu vois, on parle de Rennes, Bruno Genesio, sans en parler. Ramos ou Jaminet, oui, à l'arrière du 15 de France. Je te demande, Estelle. T'as pas d'avis?
Non, voilà. Je vais dire Ramos.
T'es payé pour avoir un avis sur tout. Tu es payé très cher pour avoir un avis sur tout.
Ouais,
je ne bougerai pas d'ici.
J'ai mis une pause dans mon contrat. Non, pas sur le rugby. Mais je peux parler de foot. Je peux parler de Sergio Ramos si tu veux.
D'accord, si tu veux, on m'en parle. Vas-y. Et on parlera de hand. Est-ce qu'on est un peu blasé avec cette équipe de France de hand? C'est-à-dire que, tu te rappelles, à l'époque, il y avait les Parjots, après il y avait les Conos, après il y avait les Cornards, après les Cocures, enfin, il y avait tout ça. Écoute-moi, ça gagne tout le temps. On est blasé. Qu'est-ce que je dis? C'est triste à dire, mais des équipes qui gagnent tout le temps, on a l'impression que c'est normal. Et bien là, cette équipe de France de hand, vous regardez même pas. Au hasard, monsieur Moreau, est-ce que vous regardez l'équipe de France?
En ce moment, le hand, si vous voulez, il y a quand même un énorme scandale.
Plutôt que parler des tortillas en Corse qui arrive jamais.
Je vais écouter Saint-Vincent à partir de 15h.
Merci.
Vincent Moscato, c'est tout de suite. 15h, 18h, le super Moscato Show. Nous, on se retrouve demain à midi 15h dans Estelle Midi. Salut à tous. Ciao.